Migration des Français en Amérique du Sud. Première partie, Pigwe.
Épisode numéro 5, vers le grand départ.
Cante custerum, cante custerum, cante custerum, los esclops. Canterun, canterun, canterun nous, canterun, canterun, canterun nous, in sous custerun, in sous custerun.
France, fin du 19e siècle.
La pauvreté, voire la misère et la famine, s'abattent sur les villes et les campagnes. La révolution industrielle rime avec remplacement de la main-d'œuvre humaine par les machines. L'arrivée du train rime avec la libre circulation des denrées et marchandises et en conséquence l'apparition d'une nouvelle forme de concurrence et de compétition. Dans les rouergues, des mines ferment, des usines ferment et de plus, le phylloxéra dévaste les vignes. Le chômage s'installe, il n'a pas l'air de s'éloigner.
De l'autre côté de l'océan, en Argentine.
Depuis son indépendance déclarée en 1816, les autorités argentines se voient face à la nécessité urgente de garder les frontières du pays et de garder leur propriété des terres conquises aux autochtones, toujours farouchement déterminées à ne pas les abandonner. Il faut peupler les pays, mais pas n'importe comment. C'est ainsi qu'une campagne d'immigration sélective fut lancée en Europe et que nombreux Français se trouvèrent en terre argentine. Parmi eux,
Clément Cabanet, natif d'Ambec, en Aveyron.
Et
François Issali, natif de Poudance, également en Aveyron.
Les destins, ou le hasard,
celui qui fait très bien les choses,
réunit ces deux hommes à Buenos Aires en 1882. Leurs racines aveyronnaises et leur désir de faire venir leur famille, les amis, les pays, les unit dans une aventure à laquelle ils se donnèrent avec toute la force et l'ardeur de leur foi en une vie meilleure. Quand ils se sont rencontrés, Clément Cabanet avait projeté la fondation d'une colonie agricole aveyronnaise en Argentine. Il avait même déjà obtenu la promesse du gouverneur de la province de Buenos Aires de lui céder des terres à cette fin. Clément Cabanet, pris de sympathie et de confiance pour François Issali, il lui présenta sur place en Argentine son projet et lui proposa de s'associer à sa réalisation. Pendant presque un an, en attendant la signature de cession des terres promises par le gouverneur, les deux hommes peaufinèrent le projet. Et en mai 1883, François Issali rentra en France avec la mission de recruter des Aveyronnais pour la colonie lointaine. Furent les déboires de l'un
en Argentine
et de l'autre
en France.
En France, François Issali comptait avoir la participation de M. Cabanet père et de François Gay pour mener à bien la tâche de recrutement. C'était en tout cas ce que lui avait dit Clément Cabanet. Mais il fut obligé de faire son chemin en cavalier solitaire, car ses deux partenaires ne pouvaient pas partager avec lui les frais de diffusion de la campagne de recrutement.
En Argentine,
Clément Cabanet essuya un revers lorsque le gouverneur de la province de Buenos Aires lui informa qu'il ne pouvait plus lui céder les terres promises. Ainsi, les deux hommes avançaient sans savoir exactement ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Ils correspondaient, certes, mais les détails pratiques étaient tels qu'ils ne pouvaient pas s'étendre sur les difficultés que chacun trouvait sur sa route. Mais ils allaient finalement se retrouver et pouvoir, face à face, exposer l'un à l'autre leurs soucis, leurs empêchements, leurs décisions et leurs projets. Lors de son retour, Clément Cabanet, depuis Lisbonne, informa François Isaly de son arrivée en France, à Rodez, le 23 ou le 24 juin au soir. François Isaly se rendit aussitôt à Humbeck pour en informer M. Cabanet père, et ensuite à Tolède pour en informer François Gay. Il aurait souhaité les avoir à cette rencontre avec Clément Cabanet à Rodez pour faire un compte rendu de l'état des demandes de concession ou de renseignement, pour recevoir de lui les informations dont ils avaient besoin pour la poursuite de l'entreprise, et pour tous les quatre ensemble s'entendre sur la date de départ de dernière famille inscrite au projet vers l'Argentine. Monsieur Cabanet père et François Gay n'avaient pas participé financièrement à la campagne de recrutement, mais ils avaient répondu aux lettres des candidats. Ils avaient reçu des candidats chez eux. Ils avaient transmis à Clément Cabanet les demandes adressées par les personnes intéressées. Cependant, ni l'un ni l'autre n'avaient le temps pour se rendre à ces rendez-vous, pourtant décisifs pour le projet. Ce fut ainsi que François Isaly retrouva, seul, Clément Cabanet, le 25 juin 1884 à Rodez, à l'hôtel Binet, où Clément Cabanet et son épouse étaient hébergés. François Isaly consigne dans son journal.
Monsieur Cabanet ne se contente pas de me tendre la main et de me la serrer, mais il m'embrasse avec la plus cordiale et la plus vive amitié.
C'est dire combien l'attente de ce moment devait être intense.
Je reçus de M. Cabanet les compliments et fervents éloges qu'il me fit pour me féliciter de mon dévouement et de mon zèle, pour le travail et les peines que j'avais prises, pour lui chercher des familles afin de peupler sa colonie, et pour mes résultats obtenus dans cette grande et délicate entreprise.
Ce fut sûrement pour François Isaly la récompense morale de ses efforts, et il en avait besoin. Il fit un compte rendu détaillé de toutes ses démarches et présenta à Clément Cabanet les dernières candidatures qu'il avait reçues. Puis, il posa tout de même à Clément Cabanet la question que le brûlait les lèvres. Que s'était-il passé après son départ au point de lui faire acheter d'autres terres que celles promises par les gouverneurs de la province de Buenos Aires.
Mon cher ami, il me serait impossible de trouver le moyen de vous faire comprendre la vive surprise que me fut causée lorsque je fus informé qu'on ne pouvait pas m'accorder ce lot de terrain-là.
Et Clément Cabanet lui raconta en détail les changements de décision de gouverneur, ses recherches d'autres terres, sa rencontre avec Édouard Cazey, l'achat du nouveau terrain, cette fois-ci seul, car ses associés argentins l'avaient lâché. Il montra à François Isaly d'abord l'acte d'achat notarié des nouvelles terres et ensuite le plan de la colonie, soulignant que le nouveau terrain était beaucoup plus avantageux car...
En plus d'avoir la voie ferrée, qui le traverse et la gare au centre de la colonie, il y a trois rivières qui le traversent.
Ce qu'il n'y avait pas dans l'autre terrain, disait Clément Cabanet. Informé et rassuré, François Isaly se mit à nouveau à la disposition de Clément Cabanet. Pendant deux jours, Les deux hommes examinèrent les dernières demandes de cession dont Clément Cabanette n'avait pas connaissance. Établir un plan de communication par affiche et par la presse de la présence de Clément Cabanette en France, de façon à permettre aux intéressés de venir les voir, s'y renseigner, demander des concessions, signer des contrats et planifier les départs pour l'Argentine.
Adieu, ma charmante Isabeau, je vais m'en aller sur ces eaux. Les voiles sont déjà au vent, je vais partir dans un instant. Adieu.
François et Sally s'occupa de la campagne d'affichage, allant d'une commune à l'autre du département et informant les intéressés des dates et lieux où ils pourraient rencontrer Clément Cabanette. Du 1er au 15 juillet à Saint-Côme, du 16 au 20 juillet à Rodez, au Telbinet, du 22 au 27 juillet à Millau, hôtel du commerce, du 29 juillet au 3 août à Sainte-Afrique, à l'hôtel du Cheval Vert, et du 5 au 10 août à Villefranche de Rouergue, à l'hôtel du Grand Soleil. François et Sally s'expriment ainsi à propos de cette période.
Cette pénible et fatigante tournée finie, laquelle dura des premiers jours de juillet jusqu'au 8 ou 10 septembre, de retour chez moi, je m'occupais à me préparer pour le départ.
Le 20 septembre, Clément Cabanette rendit visite à François et Sally à Villancontal. La tournée qu'il avait effectuée avait été fructueuse. Il avait des nouvelles demandes de concession. Maintenant, il s'agissait de préparer le grand départ. La date fut fixée pour le 25 octobre de cette année 1884 et Clément Cabanette chargea François et Sally des dernières démarches à faire avant le départ, ainsi que d'accompagner les familles durant le voyage jusqu'à la colonie, précisément au moment où tous prendraient possession des lots pour eux désignés. Ensuite, les deux hommes se séparèrent, Clément Cabanette devant retourner en Argentine pour préparer la réception des colons. Le grand jour s'approchait. Il partirait de Bordeaux. Le prix était établi à 125 francs par passager en place entière. 62 francs par enfant payant une demi-place et 31 francs pour ceux payant un quart de place. Le prix couvrait le déplacement de Bordeaux à Buenos Aires en troisième classe, nourriture comprise. Le paiement serait effectué par l'intermédiaire de François et Sally ou directement par les passagers à l'agent général d'immigration et de transport maritime, qui délivrerait les contrats d'embarquement aux intéressés à Bordeaux la veille ou les jours du départ. François et Sally furent désignés chefs du convoi. Étant donné son expérience de voyage précédent en Argentine et du fait de parler le patois véronais et de connaître les familles qui devaient embarquer avec lui. Dernière ligne droite avant le départ. François et Sally devaient informer les familles des démarches administratives effectuées pour garantir leur place sur le vapeur. Ils devaient percevoir le paiement du voyage et les transmettre à qui de droit, ou veiller à ce que les familles envoient les paiements directement, comme convenu, à l'agent général d'immigration et des transports maritimes. Et enfin, il devait faire parvenir à celui-ci la liste nominative des passagers. Le grand jour arriva. Les premiers adieux se firent au seuil des portes de leur résidence.
Adieu, ma charmante Isabeau. Je vais m'en aller sur ces eaux. Les voiles sont déjà au vent. Je vais partir dans un instant. Adieu, ma charmante beauté. Aujourd'hui faut-il laisser. Humide et laisse cruel ingrat, un jour tu t'en repentiras. Toi qui m'avais cent fois promis que tu resterais.
Les derniers adieux se firent pour la plupart le 23 octobre 1884 sur les quais de la gare de Rodez.
La tempête et le vent feront périr ton bâtiment. Les flots qui te menacent déjà, ils te mettront dans l'embarras. Tu périras sur ces eaux, toi et tous ces matelots. Quand tu seras dans ton pays, quelque espagnol pour toi joli, pourvu qu'il reste de la douceur, elles te charmeront le cœur. Elles te donneront le nom d'ingrat, et ce nom-là t'appartiendra.
Le voyage de Rodez à Bordeaux durera une longue journée. Le lendemain, tôt le matin, déjà à Bordeaux, François Issali fut appelé d'urgence par l'agent général d'immigration et de transport maritime, car il venait de recevoir un mandat d'arrêt de la préfecture de Rodez pour les jeunes garçons de moins de 20 ans qui partaient à la colonie. Il devait se présenter à son bureau, accompagné de leurs parents, car l'autorité parentale prévalait sur celle du préfet. Accompagnés de leurs parents, ils avaient le droit de s'expatrier. Quant aux mineurs non accompagnés, ils devaient présenter une preuve de l'accord de leurs parents restant en France. Heureusement, le télégraphe a permis une communication rapide. Les accords arrivèrent à temps, sauf un. Celui du jeune Marc Issali, qui même que portant le même nom de François Issali, n'appartenait pas à sa famille. Ce jeune voyageait pourtant par demande de son père, et François Issali l'amenait avec lui en tant que son domestique. Situation fort embarrassante pour François Issali, car le jeune, en pleurs, menaça de se jeter dans la Garonne, de se suicider. En plus du désarroi du garçon, François Issali perdrait la somme d'argent qu'il avait versée pour son voyage. Le lendemain, jour du départ, l'après-midi, François Issali s'y présenta au bureau de l'agent général et demanda à l'employé qui s'y trouvait de faire un nouveau contrat d'embarquement pour sa famille, prétextant l'avoir perdu.
L'employé, qui se trouvait à ce moment-là très occupé, regarda l'horloge et me dit « Vite, dictez-moi les noms des membres de votre famille, car c'est à peine si j'aurai le temps de le faire qu'il faudra vous transporter sur le quai pour vous embarquer. »
François Issali fournit les noms de sa famille, intégrant celui de Marc Issali comme son frère. Soulagement, ruse et rapidité furent plus fortes que le pouvoir du préfet, qui avait cédé à la pression des propriétaires des terres locaux, craignant l'exode des agriculteurs. C'est ainsi que François Issali et 161 personnes qu'il convoyait sont arrivés sur les quais.
Ah, enfin, ils vont partir.
Espérons-le. Qui sait ce que le destin a pu encore leur réserver? Soyons curieux, soyons impatients. La suite nous attend.
Canterun los esclops. Canterun nos sinsos.
Vous venez d'écouter Migration française vers l'Amérique du Sud.
Première partie, Pigoué, l'histoire des Aveyronnais devenus gauchos.
Racontée par une gauche devenue Aveyronnaise.
Une émission enregistrée dans les studios de Radio Larzac avec un texte de Rita.
Régie et montage Marie et les voix de
Marie,
Jean,
Nicolas
et Rita. Nos sources d'aujourd'hui:
De l'Aveyron à l'Argentine, itinéraire d'un pionnier, chronique de la fondation de la colonie française aveyronnaise de Pigoué d'après le manuscrit de François Issali, 1924. Adaptation de Nadine Coste.
Pigoué, ces Français devenus gauchos, d'Émile Cabanet et Pierre Gomber.
Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui collaborent dans nos recherches musicales. Merci à vous, auditeurs.
Et vous pouvez aussi écouter bien au chaud chez vous tous les épisodes de Pigoué sur le site de Radio Larzac dans l'onglet Émissions.
À la lettre P comme Pigoué. Canterun, 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 nous, canterun, 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 nous, sin sous de bato, sin sous de bato, sin sous de bato.